Le 14 octobre 2012, Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, a déclaré qu'il était en faveur de la dépénalisation du cannabis. Un propos sur lequel il est revenu et qu'il a qualifié, suite aux réprimandes de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, qu'il a qualifié de réflexion personnelle. Mais cette réflexion a relancé le débat sur la dépénalisation du cannabis en France, un débat qui intervient après celui des salles de shoot ou de débats qui peut-être s'interagissent. Michel Huguier, Jean-Paul Tilleman, tous les deux membres de l'Académie de médecine, je vais vous demander quel est votre avis sur ce phénomène de société, mais aussi sur cette problématique médicale. Michel Huguier.
Je ne suis pas un spécialiste du cannabis. Ce que je voudrais dire, si vous voulez, en tant que chirurgien, donc n'ayant des connaissances précises, mais relativement limitées sur le sujet, et qu'il est clairement montré, il est clairement connu, que le cannabis, comme toutes les autres drogues, ont des conséquences maléfiques sur la santé. Que ce soit des conséquences neurologiques, des conséquences comportementales qui mettent en jeu, de temps en temps, la sécurité d'autrui. Comme l'alcoolisme, quand un alcoolique ou un drogué ouvrant le volant et renverse ou tue quelqu'un qui passe tranquillement dans la rue, c'est clairement démontré. Alors je pense qu'un gouvernement, si vous voulez, responsable, ne peut pas s'exprimer à la légère sur ces problèmes de santé publique et de prévention. Et qu'on ne peut pas à la fois lutter, comme l'a fait par exemple il y a quelques années, à juste raison, Madame Veil la première, puis Claude Évin, contre le tabagisme, et puis ensuite prendre des mesures, si vous voulez, qui, au gré de l'opinion publique, vont à l'encontre, finalement, d'un esprit de prévention individuelle. Donc là, il me semble qu'il y a une incohérence, si vous voulez, dans un objectif général qui est la santé publique.
Jean-Paul Tilleman.
Oui, alors, cette incohérence est tout à fait manifeste dans la mesure où le cannabis se fume. Alors, c'est tout à fait normal de lutter contre le tabac, mais alors, accepter le cannabis, on mettra le cannabis dans le tabac. Si vous voulez, ça c'est une première incohérence. Il y a une deuxième incohérence, il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner une autre. C'est que le cannabis est un dépresseur de l'immunité. Et on le donne, on voudrait le donner à des malades du sida, c'est-à-dire à des malades qui ont une immunodéficience. Si vous voulez, c'est un non-sens pharmacologique. Donc là, je crois qu'il y a vraiment besoin d'une grande cohérence. Alors, l'autre, vous avez parlé des salles de shoot, et il y a quand même une chose tout à fait claire aujourd'hui, bien prouvée, c'est que ce qu'on appelle les toxicomanes, les drogués par injection, quand on les interroge sur la raison qui les a amenés à l'injection, ils sont tous passés par une première étape qui inclut l'alcool, le tabac et le cannabis. Aujourd'hui, l'alcool et le tabac, malheureusement, sont en vente quasi libre. Si en plus, on y ajoute le cannabis, on va ouvrir la porte aux salles de shoot. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour être contre les salles de shoot.
Mais si on prend votre argument à l'envers et qu'on se dit justement, vu que le tabac et l'alcool sont en vente libre et qu'on sait que c'est nocif, pourquoi pas finalement aligner aussi le cannabis sur le tabac et l'alcool ?
Oui, alors ça c'est un petit peu la politique du pire, c'est aussi la politique du gribouille qui dit « je me jette dans l'eau comme ça, je ne serai pas mouillé par la pluie ». Je crois qu'il est clair que si on offre à un certain nombre de gens la possibilité, il y a quand même des gens qui respectent la loi, il y a des gens qui ne fument pas le cannabis parce que c'est interdit, parce qu'ils savent que s'ils en cultivent un peu trop, ils risquent des peines de prison, il y a quand même un certain nombre de garde-fous. À l'heure actuelle, nous sommes dans les premiers consommateurs, je crois que nous sommes les premiers consommateurs européens de cannabis. Bon, donc il y a un problème, si j'ose dire, de surdose, de surutilisation. Alors si on ouvre les vannes, je pense que l'utilisation va augmenter encore. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une augmentation quantitative, mais après on passe à la deuxième étape, qui est celle de l'injection. Et là, quand on a un toxicomane par injection, c'est beaucoup plus difficile de le débarrasser de sa toxicomanie.
Michel Huguier, oui, je vous laisse la parole.
Alors, moi, j'ai entendu jusqu'à présent de mauvais arguments, si vous voulez, en faveur de ces salles de shoot. L'un d'entre eux est de dire « Ah, mais les Suisses, les Hollandais, les Danois, tous ces pays qui, effectivement, ont été relativement tolérants, on pourrait croire d'avant-garde, aujourd'hui reviennent sur leur réglementation. Les salles de shoot sont fermées progressivement en Suisse, sont fermées progressivement au Danemark. Les Hollandais sont revenus beaucoup sur les bars où on pouvait fumer le samedi soir du cannabis, comme vous le savez. Donc, faire appel aux exemples européens, il faudrait faire appel jusqu'au bout et ne pas manquer de signaler que tous ces pays, finalement, reviennent en arrière après des expériences dont il faudrait tirer profit.
Oui, moi je veux rebondir. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que les salles de shoot telles qu'on les propose à l'heure actuelle en France ont des tares fondamentales. La première, c'est que le drogué, le toxicomane, vient avec sa drogue, c'est-à-dire il apporte sa propre poudre. Et dans une structure qui est sécurisée, c'est vrai, il va pouvoir la dissoudre et se l'injecter. Mais la dissolution se fait à la main. Et le produit, la solution qui va être injectée, en supposant que c'est une solution, c'est-à-dire que le produit a été complètement dissous et qu'il n'y ait pas de grumeaux, c'est-à-dire de quoi éventuellement créer un caillot, cette solution n'est pas stérilisée. Quel médecin peut aujourd'hui accepter de prendre la responsabilité d'une injection intraveineuse d'une solution non stérilisée? Mais il y a plus, c'est qu'on n'a pas vérifié la composition de la substance de départ. Alors là-dedans, vous pouvez avoir des substances toxiques. On ne contrôle rien. Et ce que je crains, je n'ai pas la preuve à l'heure actuelle, mais ce que je crains, c'est que, connaissant l'industrie extrêmement florissante des drogues de synthèse, demain, ces salles de shoot deviennent des bancs d'essai des nouvelles drogues, qui seront payées par la société pour le plus grand bénéfice des fabricants. Ça fait quand même beaucoup de défauts. Je pense que gouverner, c'est prévoir. Hein. Manifestement, injecter une solution dont on ne connaît pas, qui est non identifiée et non stérilisée, moi, ça me paraît une aberration. J'ai appris à mes étudiants pendant 40 ans absolument l'inverse.
Et un autre argument qu'on met en avant, pas sur les salles de shoot, mais pour la dépénalisation du cannabis, c'est celui de l'éradication du trafic de drogue, notamment dans certains quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui tombe à l'eau, qui n'est pas assez fort pour aller jusqu'à ce geste de la dépénalisation?
Je dirais que c'est assez caractéristique de la situation législative actuelle. On fait des lois, beaucoup trop de lois, sans suffisamment se préoccuper, premièrement, de leurs coûts, et deuxièmement, de savoir si on était capable de les appliquer ou pas. Alors, dire... on n'est pas capable de faire appliquer la législation actuelle sur les drogues et le cannabis, donc on va faire autre chose. C'est une espèce de fuite en avant que l'on peut rapprocher du reste de la fuite en avant qui a consisté, sur les problèmes des dépassements d'honoraires. Ouais, ouais. On avait tous les moyens, pour contrôler les dépassements d'honoraires. Dans la mesure où il y a des chambres, des instances régionales du Conseil de l'Ordre de médecins, dont c'était le travail de sanctionner les dépassements qui étaient contraires aux directives, aux conseils de l'Ordre des médecins, c'est-à-dire le tact et la mesure. Au lieu de réanimer ou de susciter une plus grande vigilance et une plus grande rigueur de ces instances régionales de l'Ordre des médecins, on a créé quelque chose d'à côté pour essayer de régler le problème. Et ça ne sera pas plus réglé à mes yeux que ça ne l'était avant. C'est-à-dire que dans l'incapacité qu'on ait de faire appliquer une loi, on abdique, on fait voter une loi ou un décret ou un règlement par circulaire différent, sans être mieux capable, si vous voulez, de faire appliquer ce qu'on décide. Alors on fait des lois qui sont merveilleusement pensées, qui sont longuement débattues, mais qu'on n'est pas capable de faire appliquer. Ne fût-ce que par l'administration elle-même, qui est souvent incapable de sortir les décrets d'application dans des délais raisonnables.
Oui, alors moi, je voudrais aussi rappeler qu'il existe à l'heure actuelle beaucoup de structures qui réalisent l'accueil, le traitement et la prise en charge des toxicomanes, injecteurs ou non-injecteurs. Et toutes ces structures sont étrangement oubliées dans le débat. Or, ces structures, elles sont très actives, elles marchent très bien, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit des structures fixes, mais aussi des structures mobiles. N'oubliez pas les bus qui vont dans les squats, qui vont dans un certain... Bon, et puis, ce qui est aussi très très important, ce sont les nombreuses associations privées, tenues souvent par des bénévoles. Hein, j'en connais une avec laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle Parents contre la drogue. Bon, et ce sont des gens qui visent justement à éviter les toxicomanies, certainement pas à les pérenniser.
Jean-Paul Timant, je voulais juste rappeler un blog dont vous vous occupez, qui parle justement de ces problèmes d'addiction.
Oui, drogaddiction.com, drogaddiction.com, où nous rassemblons toutes les informations que nous pouvons trouver dans la littérature nationale et mondiale sur les méfaits de la drogue. Et le dernier papier que nous avons vu, c'est un travail néo-zélandais qui a suivi des enfants depuis la naissance jusqu'à 25 ans et qui a montré que ceux qui fumaient de façon régulière du cannabis avaient une diminution du QI, du quotient intellectuel absolument significative. Ça se comprend très très bien parce que, si vous voulez, un cerveau qui est en croissance, c'est-à-dire un cerveau qui se développe, forcément les membranes sont beaucoup plus perméables parce qu'il a besoin de beaucoup plus de nutriments pour se former. C'est-à-dire que le passage se fait beaucoup plus facilement, y compris celui de la drogue. Donc, je pense que le problème de la drogue, c'est avant tout le problème de l'adolescence, de l'enfance et de l'adolescence. Et ce sont eux qu'il faut protéger.
Parce qu'on fume, les chiffres le prouvent, les jeunes fument de plus en plus tôt du cannabis.
Exact.
Et il y a une autre étude que votre confrère, professeur Constantin, a mis en avant. C'est cette étude qui montre que l'usage du cannabis, la prise de cannabis, favorisait les cancers des testicules.
Oui, là encore, c'est quelque chose qui maintenant est prouvé. C'est quelque chose qui passe par la littérature internationale. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une invention franco-française, au contraire. Mais, manifestement, il y a une augmentation, oui, de la fréquence des cancers du testicule liés à la prise de cannabis.
Merci à vous, Jean-Paul Tillman, pour nous avoir donné votre point de vue.
Au contraire, je suis ravi de pouvoir l'exprimer. Ça n'est pas très fréquent qu'on puisse exprimer un avis.
Michel Huguier, merci à vous de votre point de vue également.
Merci pour votre accueil.
Voilà, merci à vous.